Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Bohuslav Sobotka en visite de deux jours en Afghanistan. Les syndicats de l'enseignement demandent des hausses de salaire. Et puis, les habitants de Brno et de la Moravie du Sud pouvaient sentir un tremblement de terre qui a touché l'Autriche. Comme l'a annoncé un des titres, le premier ministre tchèque a effectué une visite de deux jours en Afghanistan. Lors de son voyage, ce dimanche et lundi, Bohuslav Sobotka a rencontré les soldats tchèques, dont 250 opèrent actuellement dans le pays, notamment à la base aérienne de Bagram et à Kaboul, où ils entraînent des pilotes d'hélicoptères afghans, surveillent l'ambassade tchèque et aident dans l'hôpital militaire. Au programme de sa visite figuraient également les rencontres avec le président Ashraf Ghani et avec d'autres représentants du gouvernement. Selon Bohuslav Sobotka, la République tchèque est prête à aider l'Afghanistan, mais sous condition que celle-ci avance dans ses réformes intérieures. Les autres thèmes discutés représentaient notamment une future coopération économique et la crise migratoire, et plus précisément la nécessité d'un accord avec l'Union européenne sur le retour des réfugiés afghans dans le pays. Les syndicats enseignants ont lancé ce lundi une campagne intitulée « La fin des enseignants pas chers » pour promouvoir auprès du grand public leur demande de revalorisation de leur salaire d'au moins 10% pour l'année 2017. Les salaires des enseignants, mais aussi du personnel scolaire, ont augmenté plus lentement en 2015 que ceux des autres secteurs de l'économie tchèque. Tandis que le salaire brut moyen dans la sphère publique a connu une hausse de 3,5% pour atteindre près de 27 000 courons, soit 990 euros, ceux des enseignants n'ont connu qu'une hausse de 2,2% pour atteindre 23 000 courons, soit à peu près 870 euros. Pour l'heure, les syndicats n'ont pas prévu d'organiser des actions de protestation, mais attendent les résultats des négociations en cours. Le ministre des Finances, Andrei Babiš, entend présenter cette semaine à la Chambre des députés un projet de la loi relative à la protection des salariés qui dénonce des faits de corruption ou tout autre acte criminel contre la discrimination de la part de leurs employeurs. Ce projet de la loi qui, selon M. Babiš, je cite, « manque dans la législation tchèque », fin de citation, réagit ainsi à un document relatif à la problématique élaboré par le ministre en charge des droits de l'homme, Jiří Dienstbier. Or, d'après le ministre des Finances, ce texte n'apporte pas une protection suffisante à ses salariés en question. Quant à Jiří Dienstbier, il s'oppose à la proposition de son collègue tout en l'estimant comme, je cite, « une solution qui fait de l'effet » mais qui ne sera jamais appliqué, et pense que les changements dans le code de travail existant pourraient être introduits plus facilement. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,1 degrés qui a touché ce lundi vers midi l'est de l'Autriche et dont l'épicentre a été situé à 20 km de Vienne s'est fait sentir également à Brno et en Moravie du Sud. Selon le directeur de l'Institut de physique du globe de Brno, Petr Špaček, le séisme a été enregistré par une vingtaine d'appareils installés sur le territoire tchèque. Monsieur Špaček a indiqué également que certains citoyens avaient annoncé, par exemple, que leurs meubles avaient tremblé. Toutefois, les tremblements ont duré seulement quelques secondes et n'ont causé aucun dommage important. Ce lundi, en fin d'après-midi, sera inaugurée une exposition en plein air sur la presqu'île de Kampa consacrée au roi de Bohême et empereur du Saint-Empire, Charles IV, dont on célèbre cette année le 700e anniversaire de la naissance. Sur la vingtaine de panneaux, les passants pourront découvrir des portraits grand format de souverains, des extraits de textes rédigés par ses soins, ainsi que le point de vue de ses contemporains sur son règne et sa personnalité. L'inauguration de cette exposition se déroule le jour anniversaire de la fondation du quartier de la Nouvelle Ville à Prague, que l'on doit justement à Charles IV. L'exposition s'achèvera le 25 mai prochain. On termine comme toujours avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, c'est un temps essentiellement couvert et avec de possibles averses qui peuvent transformer en chute de neige en altitude qui règne sur la majeure partie du territoire tchèque ce mardi, jour de la fête des Autos. Les températures maximales oscillent entre 6 et 10 degrés et peuvent s'élever jusqu'à 14 degrés dans la partie sud-est du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Alžbeta Tichá. Merci de votre attention et on retrouve maintenant Anna Kubišta qui nous a rejoint au studio et nous accompagne pour la suite de cette émission. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague et merci à Alžbeta Tichá pour son bulletin d'information. Dans notre émission d'aujourd'hui, suite et fin de notre entretien, à propos de la chronique de Dalimil, un texte fondateur de l'histoire et de l'identité nationale tchèque. Puis rencontre avec la soprano tchèque installée en France, Stella Marisova, qui était de passage à Prague dans le cadre d'un concert. Puis place au sport en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. Suite et fin donc aujourd'hui de notre entretien avec l'historienne française Héloïse Ad-Vomachka qui a consacré plusieurs années de recherche et de travail à un texte médiéval majeur dans l'histoire tchèque, la chronique de Dalimil. Mi-avril, sa traduction de la chronique est d'ailleurs sortie en France et dans la première partie de cet entretien, Héloïse Ad-Vomachka soulignait que ce texte anti-allemand avait été récupéré à l'époque du renouveau national et du nationalisme du 19e siècle ou encore pendant la Deuxième Guerre mondiale et brandi comme symbole de l'identité nationale tchèque. Guillaume Narguet, lui, a demandé si cette chronique avait encore des résonances actuelles aujourd'hui.
Alors actuelle, concrètement, je n'irai pas jusque-là, parce que malgré tout, les relations sont quand même pacifiées entre les Allemands et les Tchèques, mais elle reste quand même un moment clé, et tous les Tchèques le connaissent, ce texte, même s'ils ne le connaissent pas dans son contenu, s'ils ne le connaissent pas précisément. C'est quand même un texte qui habite l'imaginaire des Tchèques. Et en ce sens, je pense qu'il est toujours très présent comme constitutif, effectivement, d'une identité nationale et culturelle tchèque. Il faut savoir que c'est le deuxième texte écrit en tchèque et c'est le premier texte vraiment qui porte sur l'histoire des Tchèques, qui porte sur des questions tchèque. Et en cela, il est resté comme une référence que tout le monde connaît.
Cette chronique, vous l'avez dit, a été rédigée en vieux tchèque. Vous êtes française, vous avez dit également que vous ne parliez pas tchèque lorsque vous vous êtes intéressée à ce texte. Donc, quel travail la traduction a représenté pour vous? On suppose que c'est quelque chose de... une masse
C'était
de travail
très,
inimaginable.
Très difficile. En effet, au début, j'ai vraiment eu un moment de doute, à savoir si j'avais fait le bon choix. Et puis, avec le temps, avec un peu d'abnégation, j'ai eu aussi beaucoup d'aide de la part de certaines personnes à l'Université Charles, Martine Neyedli, Marie Blarova, à la Bibliothèque nationale, Zenia Kourir, qui est directeur du département des manuscrits et des vieux imprimés. Donc finalement, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru en ce que je faisais et c'est vrai que ça m'a beaucoup soutenue. Et puis bon, effectivement, beaucoup de travail pour apprendre le tchèque moderne et puis aussi le vieux tchèque. C'est vrai que ça faisait un double travail, mais bon, visiblement, ça a fini par marcher.
Ce texte écrit en tchèque a ensuite été traduit en latin, en allemand. Savez-vous s'il existe des traductions dans d'autres langues également, ou alors le français est un cas unique?
En langue moderne, ça n'a été traduit qu'en français. C'est pour ça que ma traduction était attendue. Marie Blarova, justement, de l'Université Charles, m'avait dit qu'il y avait une entreprise de traduire le texte en anglais, mais la personne qui s'en chargeait a finalement abandonné. Les traductions dont vous parlez en latin et en allemand sont des traductions médiévales et qui ne sont donc pas fidèles. La traduction latine, en plus, s'est retrouvée à l'état de fragment. Elle est donc très incomplète. Et la traduction allemande, elle servait plutôt l'objectif de la communauté allemande de Bohême de bien montrer qu'elle ne faisait pas partie des Allemands que la chronique de Dalimil attaquait. Donc, y a plein de mots qui sont changés. On n'est pas dans une traduction fidèle, scientifique, entre guillemets, si je puis me permettre d'utiliser ce mot. Donc, finalement, la traduction en langue moderne, comme je l'ai proposé, c'est la seule à l'heure actuelle qui existe.
Suite à ce travail, est-ce que vous vous intéressez à d'autres textes rédigés en vieux tchèque?
Bien sûr. Avec Martine Eyedli, on a le projet de traduire le nouveau conseil, Novarada, de Smil Flaschka de Pardubice, qui est un texte aussi important de cette littérature du XIVe siècle. Avec lui aussi, on avait traduit une relation de voyage de l'écuyer Yaroslav, qui faisait partie de la délégation qui avait été chargée de proposer à Louis XI en France un projet d'union des États chrétiens, hein, un peu une sorte de préfiguration de l'Union européenne au XVe siècle. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui restent, parce que comme je travaille sur des sources tchèques et qu'elles ne sont pas accessibles en français, à partir du moment où je veux que mon message soit entendu en France, bah, il faut aussi faire ce travail de rendre accessibles ces sources sur lesquelles portent mes travaux.
À qui s'adresse votre travail ? Alors, bien sûr, il y a le monde, on va dire, des historiens qui vous entourent, des spécialistes de l'histoire tchèque, mais quelqu'un qui s'intéresse tout simplement à l'histoire médiévale, à l'histoire de l'Europe, à l'histoire des pays tchèques. Est-ce que c'est un livre également accessible pour ce type de personnes ?
C'est difficile à dire. C'est vrai que moi, je suis habituée à écrire pour un public plutôt de chercheurs ou d'étudiants d'enseignement supérieur. Après, je pense qu'il y a des passages qui sont accessibles effectivement à un public plus large. Je ne limiterai pas aux personnes qui s'intéressent à l'histoire tchèque, mais je l'étendrai aux personnes qui s'intéressent à l'histoire des idées aussi, parce que comme c'est un texte qui se veut quand même comme un projet politique, ben, j'aborde toute cette question, voilà, de la politisation, de l'apparition d'une culture politique au Moyen-Âge, ce qui est pas évident parce que elle n'a pas les mêmes outils que la nôtre, et donc essayer de repolitiser le Moyen-Âge. Et donc je pense que là, ça peut aller au-delà vraiment des chercheurs spécialistes de l'histoire et de l'histoire tchèque.
Soprano et présidente de l'association franco-tchèque d'Aquitaine, Stella Marisova a accompagné récemment ses élèves pour quelques jours à Prague. Ce stage culturel leur a permis d'interpréter des œuvres classiques tchèques ainsi que de la chanson française, notamment d'Edith Piaf, lors d'un concert au conservatoire Jan Dale. Ancienne soliste de l'Opéra de Prague, Stella Marisova est désormais professeure à Bordeaux, où elle s'est donnée pour mission de promouvoir la culture tchèque. Défi audacieux, mais réussi selon elle, on l'écoute au micro de Capucine Jaffé.
À l'époque, comme je suis venue à Bordeaux, personne ne savait où est la République tchèque. Comme j'étais chanteuse lyrique, donc j'ai proposé à Bordeaux et en France, ce répertoire tchèque. J'ai fait connaître assez souvent, j'ai rencontré les gens qui m'avaient dit « c'est Tchétchénie, où ça se trouve, Tchéquie, ou je dis République tchèque ». Donc voilà, donc, il n'y avait pas beaucoup de connaissances. À l'époque, Prague n'était pas très à la mode, c'était venu après.
Est-ce que cela séduit les Bordelais, les Français ? Est-ce que ça a un impact en France ?
Bien sûr, ça séduit parce qu'au bout de quelques mois, j'ai eu 70 personnes de mon association. Donc c'était après, bien sûr, avec les années, ça, les gens partent, les gens reviennent. En ce moment, on a à nouveau 70 personnes. Donc je pense pour une association, c'est très bien.
Est-ce que la musique tchèque est susceptible de trouver des influences françaises ou vice-versa ? Est-ce qu'il peut y avoir
C'est-à-dire la musique tchèque, il y a plusieurs... On peut parler de folklore déjà, de la musique populaire. Donc la République tchèque, elle est en grand, hein, coupée en deux. C'est-à-dire Prague, c'est déjà une influence on va trouver la même façon à Paris. Les chansons de Prague, les chansons de Paris. Par contre, Moravie, elle va plutôt vers le slave, vers le russe. Il y a nostalgie, il y a l'autre façon de créer la musique populaire. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a l'autre attitude déjà des musiciens. Voilà, donc on s'influence bien sûr. Parce que la musique classique, en général, elle prend les sources de la musique populaire à public tchèque, pays tchèque, on peut dire plutôt. Par contre, les Français... Ils ne s'inspirent pas autant de la musique populaire. Au contraire, j'ai l'impression qu'avec certaines façons, la musique populaire, elle est un petit peu rejetée. Mmh.
Est-ce que maintenant vous vous sentez aussi proche de la culture française que de la culture tchèque?
Moi, je vis en France depuis 20 ans et je suis une Française aussi. Donc, c'était devenu ma deuxième patrie. Mmh. Et ça me pousse aussi, comment dire, comprendre pour certains... que certaines choses, vous les comprendre, comment, pourquoi les Français ressentent les choses d'une telle à telle façon. Avec la culture tchèque, c'est beaucoup plus facile parce que c'est de moi, hein, c'est l'éducation avec tout ça. Je vois quand même la différence. Ça me fait du bien, ça me fait du bien revenir à Prague ou à République tchèque parce que je baigne dans quelque chose qui est très profond en moi. Mais j'ai un petit peu mal imaginé que je vais me couper pour toute la vie de France. C'est quelque chose qui est aussi près de mon cœur.
Que pensez-vous de la place de la musique classique dans nos sociétés actuellement?
La musique classique, elle harmonise. Elle harmonise, c'est-à-dire qu'il faut évoluer pour se laisser harmoniser intérieurement. Maintenant, on entend beaucoup bien-être, plein de choses, bien-être. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de révoltes, beaucoup d'opinions, plein de choses qui sont un peu sauvages, qui jouent dans nous. La musique classique, je trouve qu'elle canalise, elle harmonise.
Est-ce que vous pensez que les jeunes sont quand même touchés par cette musique classique?
J'ai fait tout pour sensibiliser les jeunes et les gens en général et montrer que la musique, ce n'est pas une attitude de... Je ne sais pas si vous avez une jolie voix, tout de suite chanter à l'opéra, se montrer et être très superficiel. Mais c'est quelque chose de très profond, très créatif. Et il faut cultiver à tout âge ce don, ce qu'on a, tout ce potentiel, ce qu'on a. Et Antonin Dvořák, dans son chant « Když mě stará matka », il dit très bien, il y a le texte « Comme ma grand-mère m'avait appris chanter, je ne comprenais pas pourquoi elle pleure maintenant comme j'éduque mes enfants, j'ai compris. Et c'est aussi, je pleure. Tellement c'est fort, tellement c'est profond. C'est la façon où je guide les gens qui chantent.
Et on passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Depuis dimanche soir, la République tchèque connaît son champion de hockey sur glace. Elle connaît aussi à 99% son champion de football. Et elle sait enfin que ce ne sera pas le Sparta Prague, pas plus en type sport Extraliga qu'en Sinotliga. En hockey, Liberec a été sacré pour la première fois de son histoire en remportant 4 victoires à 2 la série de la finale des playoffs de l'Extraliga aux dépens du Sparta Prague. Tandis qu'en football, le Viktoria Plzeň a fait un pas quasi décisif dans sa quête d'un deuxième titre consécutif, le quatrième en 6 ans, en s'imposant 3-0 sur la pelouse de son grand rival. Une rubrique sportive concoctée pour vous par Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Les amateurs de sport, et plus particulièrement des deux disciplines les plus populaires en République tchèque, étaient gâtés dimanche soir. Et les supporters du Sparta Prague plus encore. Du moins, pouvait-on le penser. Tandis que leur équipe de hockey accueillait les Tigres Blancs de Liberec en fin d'après-midi pour un sixième match couperet dans l'optique de la conquête du titre de champion, leur équipe de football recevait, elle, dans la soirée, quelques kilomètres seulement plus à l'ouest, le Viktoria Plzeň pour ce qui était annoncé depuis plusieurs mois déjà comme le match au sommet de la Sinotliga. Mais c'est déçu que la majorité des 17 000 spectateurs et des 19 000 autres qui avaient rempli respectivement l'O2 Arena, le temple du hockey tchèque des temps modernes et le stade de l'Etna sont rentrés chez eux. Au contraire des supporters de Liberec et de Plzeň qui, que ce soit depuis leur Bohême du Nord ou de l'Ouest, avaient fait le déplacement long d'une petite centaine de kilomètres jusque dans la capitale. Il est bientôt 22h sur le traditionnel Air des Lampions. Les 2500 supporters de Pelzeign, parqués dans un coin du stade, chantent à tue-tête depuis un bon moment déjà qu'ils seront à nouveau championni. On joue alors la deuxième mi-temps du temps additionnel. Le Victoria mène tranquillement 2-0 quand Michael Kremenčík, profitant des boulevards laissés par les défenseurs pragois, file seul vers le but et lobe d'une petite balle piquée le gardien David Bicic trop avancé. Le troisième et dernier clou dans le cercueil d'un Sparta qui espérait pourtant, avant le coup d'envoi, mettre fin à la série de 14 victoires de Pelzeign en Synotliga et ainsi redonner un peu de suspense à la lutte pour le titre. Au contraire, avec ce 15e succès d'affilée, record égalé dans l'histoire du championnat, le club de Bohême de l'Ouest, nouvelle place forte du championnat tchèque depuis son premier sacre en 2011, est désormais quasiment assuré de conserver son bien. Avec 11 points d'avance, à 4 journées de la fin, le Victoria, qui n'a peut-être jamais si bien porté son nom, pourra officiellement faire la fête avec son public samedi prochain lors de la réception du Baník Ostrava. Tout autre résultat qu'une défaite face à la Lanterne Rouge permettra aux hommes de Karel Krejčí de faire sauter les bouchons de champagne aussitôt le coup de sifflet final. Mais avant d'envisager cette perspective alléchante, l'entraîneur de Pelzeign préférait savourer le moment présent en conférence de presse après le match. Je suis satisfait ce soir, c'est vrai. Non seulement nous avons remporté notre 15e match d'affilée, mais aussi le 21e sur les 22 derniers matchs. Je pense pouvoir affirmer que ce sont là des chiffres d'une équipe digne d'être championne. Il ne faut pas oublier que le début de saison a été très compliqué. Nous avons égalé un record et nous entendons désormais le battre contre Ostrava. Autre série qui parle d'elle-même, dimanche soir, Pelzeign a battu le Sparta pour la 4e fois consécutive en championnat. Malgré les 11 points qui séparent les deux équipes, après 26 journées, une simple lecture des chiffres permet de constater que si les Pragois avaient mieux maîtrisé ces matchs toujours très tendus, la situation en tête du classement pourrait être tout autre aujourd'hui. Meilleur buteur du championnat, Michal Djuric, l'attaquant international slovaque de Pelzeign, qui figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens, explique ce qui, selon lui, a fait pencher la balance en faveur du Victoria ces deux dernières saisons. Nous avons une équipe expérimentée et avons déjà joué un bon paquet de rencontres importantes ces dernières années. Nous savons comment nous préparer pour ce type de rendez-vous. Ce soir, nous savions aussi que le Sparta était dans l'obligation de gagner pour garder un espoir. Nous avons d'abord bien défendu, même si le Sparta a poussé en deuxième mi-temps, mais nous avons résisté et su marquer quand il le fallait. Marquer quand il le fallait, cela a d'abord été sur penalty, car la première mi-temps de ce Sparta-Pelzeign a d'abord été une histoire de coup de pied de réparation. Et si Andrzej Vaniek a froidement transformé le sien dès la 11e minute, Bożek Doczkal, pourtant un des meilleurs joueurs pragois dimanche soir, a lui envoyé le cuir dans les tribunes à la 27e. Ce penalty raté a probablement constitué le tournant du match, comme le reconnaissait le milieu de terrain du Sparta. Je pense que le score final est cruel pour nous et ne reflète pas la physionomie du match. En même temps, ce n'est pas du patinage artistique, peu importe qui joue mieux. Ce type de match ne se gagne pas grâce à une meilleure possession de balle ou au nombre d'occasions. Il y a des moments clés qu'il faut savoir bien gérer. Aujourd'hui, les deux pénaltys en première mi-temps ont constitué ces moments clés. Si je marque le mien, on revient à un partout et ce n'est plus du tout le même match. Peut-être, toujours est-il, que mené au score, le Sparta n'est ensuite jamais parvenu à mettre la défense de Pelzeign suffisamment en difficulté pour dire de recoller. Poussif et en manque d'imagination par instant, les Pragois, peut-être plus marqués moralement et physiquement par leur élimination en quart de finale de la Ligue Europa qu'ils ne veulent bien l'avouer, sont apparus comme au bout du rouleau. Et tant pis si leur défenseur, Jakub Brabec, ne partageait pas cet avis. Je ne dirais pas ça. Nous sommes contents d'avoir tant de matchs à jouer. Nous avons disputé la Ligue Europa pour faire le plus beau parcours possible et en avons profité au maximum. Nous n'avons aucun regret là-dessus. Les blessures, les absences et la fatigue font partie du jeu. Ça ne peut pas être une excuse. Nous sommes payés pour jouer au foot, on ne va donc quand même pas se plaindre d'avoir des matchs en plus à notre programme parce que nous avons réalisé de bonnes performances en Coupe d'Europe. Je ne parlerai pas non plus d'une usure mentale. Ces derniers mois, nous avons joué la plupart de nos matchs dans des stades pleins, aujourd'hui encore. Les supporters ont toujours été derrière nous, même quand cela a moins bien tourné. Non, il faut savoir profiter de ces moments dans une carrière, même si malheureusement, les résultats ne suivent plus.
To jsou zápasy, které si musíme užít a pak je škoda, že prostě nezvládneme výsledkově.
Pour le Sparta, il ne reste donc désormais plus que la Coupe nationale pour sauver une saison certes riche en émotions et chargée, mais une nouvelle fois sans le seul titre qui compte véritablement à Prague, qu'il s'agisse de foot ou de hockey.
Notre émission en français sur Radio Prague s'achève. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations, mais bien d'autres encore, sur la République tchèque, donc en français, sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook et puis également sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.